les gens vont encore confondre le storytelling et le copywriting. Le
Mmh.
copywriting, c'est encore cette technique qui fait qu'en fait, on écrit tellement des excellents articles de blog qui poussent à la conversion. On essaie de contextualiser. On essaie aussi parfois de raconter des histoires puisque le copywriting utilise la narration pour pouvoir convertir. Mais là où le storytelling devient roi et maître de tout et englobe absolument tout, c'est lorsqu'il y a une cohérence. Tu peux bien écrire des articles de blog qui vont convertir pour faire passer tes prospects. D'ailleurs, c'est ce que nous, on fait. On fait ça sur nos captions Instagram. On fait ça sur nos captions, captions Instagram, articles de blog, ou peu importe tout ce qu'on écrit, c'est pour convertir. Mais par contre, regarde, tu vas pouvoir raconter une histoire sur ton article de blog. Et lorsqu'on va sur tes réseaux sociaux, on ne comprend pas ce que tu fais. Lorsqu'on va sur toutes tes autres plateformes, on ne comprend pas ce que tu fais. On ne comprend pas, bon, ben, c'est quoi ton message de marque déjà, c'est quoi? Et ensuite, c'est quoi ton histoire? Et après, comment tu englobes tout ce contenu dans l'ensemble, justement, de ton ADN?
Bienvenue sur L'Ambition au féminin, épisode 4.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses! On est déjà à l'épisode 4 du podcast et aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est sur toutes les lèvres depuis quelque temps et c'est le storytelling. Comme vous savez peut-être, je suis une littéraire de formation. J'ai toujours aimé les livres, ce qui a fait que j'ai fait mes études en littérature comparée. Mais quand j'ai quitté ce monde-là, pour celui du marketing, du branding, etc., des communications, il y a quelque chose qui est resté comme vraiment un fil conducteur avec mon passé littéraire, puis c'est ma passion pour les histoires. Parce que je crois fondamentalement que l'histoire qu'on raconte, la narration qu'on fait de nous, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ça définit comment les autres nous perçoivent, mais aussi comment on décide d'évoluer dans le monde. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de storytelling avec une pro de l'industrie. Je reçois Bemvinda Kang, qui est conteuse de marque. Elle accompagne les travailleurs indépendants à raconter leur histoire pour inspirer, engager et vendre. Storyteller depuis toujours, elle partage aujourd'hui son expertise auprès d'un public en recherche de sens, d'un brin de magie dans leur façon de se présenter, de présenter leurs produits et services, leurs projets et toute l'entreprise qui leur tient à cœur pour attirer la clientèle qualifiée. Comme d'habitude, les liens mentionnés dans cet épisode et les façons de contacter Bemvinda se trouvent sur la page de l'épisode à mtamarque.com/4.
Bonjour Bemvinda, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Tatiana, ça va très bien. Merci.
Alors, merci d'avoir accepté d'être sur cet épisode de L'Ambition féminin. Aujourd'hui, on va parler de ton expertise qui est le storytelling. Donc, parle-nous un petit peu d'où t'es venue ta passion pour le storytelling, puis comment est-ce que t'as transformé ça en activité professionnelle?
Alors, je pense que j'ai toujours été très keen on, comme on dit, des histoires, parce que je suis d'origine africaine et plus précisément, je suis congolaise. Donc, en fait, la culture africaine, elle est vraiment très orale. On a vraiment une tradition orale qui est assez forte. Ce qui fait que lorsqu'on éduque les enfants, lorsqu'on essaie de... oui, c'est souvent ça, c'est avec l'éducation, on fait passer des messages et des messages passent mieux lorsqu'on raconte une histoire. Moi, je retiens toujours jusqu'à aujourd'hui l'histoire du petit cochon et de sa maman qui demandait à sa maman pourquoi elle a un long museau. Et sa maman lui disait, bah, attends, quand tu auras mon âge, tu me reposeras cette question. Et le jour où il avait l'âge de sa maman, et sa maman l'a rappelé pour dire, est-ce que tu comprends mieux maintenant? Et donc, c'était un message pour nous faire passer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tout de suite, mais qu'on pourrait comprendre que lorsqu'on va grandir, que ça ne sert sert à rien d'être pressé, mais d'attendre tout simplement. Parce que c'est des choses comme ça qui étaient assez fun. Tu sais, quand on nous racontait tout ça, on riait et tout, on se disait, ah, et puis on retenait mieux, c'était des leçons morales et tout. Et puis chez moi, il y a tout le temps, même chez moi à la maison, il y a tout le temps des contes et des sagesses africaines, ce qui me permet d'apprendre la vie. Et mieux retenir les leçons comme enseigne. Donc oui, effectivement, ma passion pour la narration et les histoires de façon générale proviennent vraiment de mes origines, on va dire, entre guillemets. Voilà.
Et puis, à quel moment dans ta vie tu t'es dit « c'est ça que je veux faire » professionnellement? Parce que bon, je vais juste faire un petit aparté où est-ce que toi, tu as un emploi à temps plein où tu travailles dans le microcrédit, mais tu as lancé ton entreprise il y a environ quoi, 2 ans?
Environ 2 ans, oui. Alors moi, je suis, pour recontextualiser, mais vraiment très brièvement, je suis arrivée en France il y a 6 ans maintenant. J'étais venue dans le cadre de mes études universitaires. J'ai pratiquement fait tout mon cursus ici en France, où j'ai commencé un peu dans l'économie, la gestion. C'est des choses que je faisais déjà avant, quand j'étais dans mon pays d'origine à Kinshasa, parce que j'avais déjà commencé la fac, sauf que je n'arrivais pas à me retrouver. Il y avait toujours ce truc où quand on te pose la question « qu'est-ce que tu vas faire après ?», ben, tu ne sais pas concrètement l'orientation professionnelle. Il faut le dire, c'est assez compliqué. Même si on a des conseillères d'orientation, c'est quand même quelque chose de personnel, c'est quand même quelque chose où... on passe beaucoup de temps à se poser des questions assez existentielles et ça met mal à l'aise, on perd confiance en soi. Et je suis passée par cette case-là. Je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat lorsqu'en fin d'année de licence, on a fait un travail. Il fallait créer une entreprise dans le domaine du sport. Donc, je me suis vraiment vraiment amusée et j'étais en charge de l'étude de marché. Donc, j'ai trouvé que c'était génial et je me suis dit, bah, tiens, donc, s'il faudrait au moins orienter mes études ou mon activité professionnelle, pourquoi ne pas me positionner dessus? Donc, en master, on me proposait plusieurs options, entrepreneuriat, création d'activités, il y avait économie sociale et solidaire. Je me suis dit, tiens, ça me parle, ça me dit quelque chose. Moi, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, je suis dans le partage, je suis naturellement, ça on va en parler tout à l'heure, je suis naturellement une personne jaune. Amine, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup tout ce qui a du sens, c'est vraiment, je vais toujours dans la profondeur des choses. Et je me suis dit, tout ce qui est social et solidaire me correspond beaucoup plus. Et je ne m'attendais pas à ce que faire ces études-là m'ouvrait un vaste champ dans le microcrédit, dans la microfinance, parce qu'effectivement, le but, c'est quand même d'aider les personnes à créer leur activité avec des petits financements. Mm-hmm. Et j'ai trouvé totalement ma route, j'ai trouvé totalement mon sens. Alors, pourquoi rattacher tout ça à des histoires? Parce que tous les jours, les gens qui viennent dans mon bureau pour pouvoir demander du crédit passent par la case, parlez-moi de vous et de votre projet. Parce qu'effectivement, avant de pouvoir valider ces projets-là, étudier la viabilité, les risques, etc., on accorde vraiment beaucoup d'importance à la personnalité projet. Et donc c'est quoi? Bah, c'est des histoires. On entend tout le temps des gens parler d'eux, ce qu'ils ont fait avant, pourquoi ils en sont là. Et on a même qui se permettent de pleurer devant mon bureau parce que leurs histoires, elles sont assez douloureuses. Effectivement, tu vois, une dame avec 4 enfants, son mari, son conjoint. Enfin, voilà, c'est assez dur. Ça veut dire que leur entreprise, c'est vraiment leur histoire et elles veulent vraiment tout transmettre, donner de l'énergie pour donner des leçons à leurs enfants. C'est quelque chose de fort. Et moi, je ne m'en étais pas rendu compte parce que quand je rentrais à la maison, bah, j'écrivais ça. Alors, j'écrivais pas les histoires des personnes que je rencontrais, mais je m'inspirais de ces histoires pour me donner des propres leçons et donner des leçons morales en fait aux personnes qui me lisaient. Donc, c'était un blog en fait que j'avais avant. J'essayais vraiment d'aider les jeunes à aspirer à des grandes choses, mais avec des histoires des gens, trouver des inspirations. D'où les gens maintenant commençaient à me contacter pour écrire leur propre histoire. Je trouvais ça assez rigolo, je me disais, oh tiens, pourquoi? Mais je me suis dit, bon tant qu'on me paye pour ça, pourquoi je vais refuser? Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, au fur et à mesure, c'était du bouche-oreille. Ah, tiens, Ben, et tout, si tu veux faire une belle présentation de ton projet, une belle présentation de quoi que ce soit, tu as une conférence, appelle Ben. Donc, du coup, c'était vraiment comme ça au fur et à mesure. Et ensuite, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes, les gens même me demandaient de corriger leur mémoire, j'ai dit, bon, OK, all right, on va se poser et on va essayer de structurer ce projet-là et créer une entreprise tout autour. Donc, j'ai été accompagnée par un incubateur de jeunes étudiants. À l'époque, j'étais encore étudiante en master. Et bah, mon projet était à l'air du temps. C'était des histoires, c'était du storytelling et tout le monde y trouvait vraiment un sens. Et du coup, donc, je me suis encore documentée. Parce qu'il n'y a pas de formation type. Contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas une formation en fait à l'école, à la fac, même en com, même les grandes écoles de com proposent pas un parcours storytelling, narration. Pourquoi ? Parce que c'est des choses que l'on sent, des choses que l'on imagine avoir une technicité. Soit c'est naturel, soit ça vient d'une espèce de créativité que l'on développe avec de l'exercice. Et donc voilà, je me suis axée dessus et j'ai foncé, simplement.
Vraiment cool, parce que je trouve que c'est justement, comme tu dis, à l'ère du temps, surtout aujourd'hui où on pense vraiment au marketing qui est très axé vers l'humain et très axé vers justement les émotions qu'on peut faire ressentir à l'autre, qui est beaucoup moins... On est beaucoup moins dans la vente que dans le storytelling, justement. Donc, le storytelling, puis là, si on lit des magazines d'affaires, on voit ce mot qui émerge partout. Donc, ta passion pour les gens s'est vraiment transformée en quelque chose de quand même assez lucratif et très pertinent.
C'est ça. Et surtout que ça avait du sens. Hein. Le parcours a quand même eu du sens. J'avais peur de m'embrouiller, mais pas du tout. Je me suis tout de suite retrouvée qu'en fait, tout se liait. Donc, que ce soit mes origines, que ce soit ma personnalité, que ce soit le parcours que j'ai suivi, même s'il n'est pas dans la communication, parce que le storytelling, c'est un outil de com. Ouais. Je n'ai pas de diplôme en communication, je suis plutôt quelqu'un d'autodidacte. Et je pense qu'il y a des choses aujourd'hui... C'est pour ça que je suis assez... pas méfiante, mais je passe toujours par le... Méfiante de moi-même, je veux dire. Je passe toujours par cette espèce de syndrome d'imposteur où je me dis, bon, bah, si je me présente devant les gens et qu'on me demande c'est quoi mes diplômes, il n'y a aucun de la com, même si j'ai un bac littérature, les gens, ils ne me trouveront pas légitime. Mais bon, avec le temps, j'ai appris à l'apprivoiser.
Mais ton magazine, ton projet personnel que tu avais fait en sortant de l'école est devenu ton CV et ton portfolio dans un certain sens.
Tout à fait.
Il s'appelle... Limbola Magazine.
Tout à fait.
On peut encore trouver en ligne, j'imagine.
Oui, bah en fait, du coup, le magazine n'existe plus, donc j'ai dû le fermer. Mm-hmm. Et maintenant, c'est Limbola, c'était transformé en blog. Et là, bah, maintenant, c'est une agence de storytelling, vraiment c'est sur la narration. Voilà.
Bon, revenons un peu justement à la narration.
Oui.
Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne histoire?
OK. Ce qui fait une bonne histoire, c'est non seulement... Alors, on va commencer par le début. Ce qui fait vraiment une bonne histoire, c'est les acteurs que l'on choisit, pour proprement parler. Donc, les acteurs, le héros, les faits et le schéma. C'est ce qui fait une très bonne, très, très bonne histoire. Est-ce que tu veux que je rentre dans le détail, peut-être, pour que tout le monde comprenne.
Un peu dans le détail, pour qu'on voit un peu, parce que moi, d'accord, en tant que littéraire, je comprends très bien de quoi tu parles, parce qu'on a étudié ce type de la narratologie, entre guillemets, mais je trouve ça intéressant de voir comment toi, instinctivement, tu as pu trouver ces éléments-là, puis tu es capable de les transformer quand tu rencontres quelqu'un qui veut raconter son histoire, justement. Donc, parle-nous un petit peu de peut-être ton processus, puis comment tu peux rendre... une histoire qui est peut-être, je te raconte mes faits de A à Z, mais où est la distinction entre quelque chose qui va vraiment accrocher?
Alors, déjà, il faut savoir qu'on met l'accent, généralement, quand on commence, si on se dit, mais quels sont les acteurs? C'est-à-dire qui raconte et qui est le héros de l'histoire? Mm-hmm. Ensuite, on fait un point sur les objectifs. Ok, il faudrait raconter, mais quel est le message essentiel qu'on souhaite faire passer à travers cette histoire que l'on veut diffuser? Après, on va voir le schéma. Donc, c'est généralement ça. C'est que tu as les personnes qui vont revêtir en quelque sorte cette histoire-là. Tu as l'histoire en elle-même avec les objectifs qui vont derrière. Après, tu mettras bien sûr les formes, etc. Mais le plus important, ce sont les objectifs. Et ensuite, tu as le schéma, c'est-à-dire le parcours du héros, le parcours des acteurs pour te mener à cet objectif-là que tu souhaites atteindre. C'est vraiment les trois essentiels d'une histoire bien construite et qui sert à vendre, qui sert à convaincre, etc. Donc, pour le cas d'une entrepreneur, par exemple, les objectifs seraient, par exemple, vendre son produit, présenter ses services, présenter son expertise, convaincre par rapport à sa légitimité, pourquoi vous devez Quelles sont les bonnes raisons de pouvoir travailler avec moi? C'est parce que au début, j'étais comme ci, comme cela. Et aujourd'hui, voici ce que je propose. Il y a bien un schéma par lequel on va passer. Mmh. Et la personne est censée être le héros un peu de l'histoire. On va dire ça mmh. comme ça. Dans le cadre d'un projet professionnel, donc par exemple, si une personne souhaiterait vendre son propre CV, et ben, on pose souvent des questions. Déjà, les premières questions quand on vient dans un rendez-vous, un entretien d'embauche, c'est « présentez-vous ». C'est assez logique. Dites-moi un peu, parlez-moi un peu de votre parcours. Donc, toi, tu vas te positionner comme le héros pour le poste que tu souhaites comment on dit en bon français, occuper. Ouais. Voilà, le poste que tu souhaites occuper, donc ton poste, ton job de... Cochez-vous, on dit ta job. De rêve, voilà. Et ton parcours, en fait, est censé être ce schéma-là pour t'emmener au poste que tu souhaites justement occuper. Et toi, tu es le héros qui va apporter ton expertise, ta volonté, toute ta motivation à l'entreprise. Donc, il y a l'acteur qui est toi. Il y a l'objectif qui est de justement d'occuper un poste que tu souhaites occuper. Et tu as toute la trajectoire, c'est-à-dire ton parcours, les faits, etc. pour y arriver.
Voilà. Puis il y a une genre de transformation à travers tout ça qui est effectuée par le héros. Il y a un rythme. Je pense que c'est ça qui est difficile souvent à maîtriser. C'est quoi le rythme où on passe à travers les obstacles sans que ça devienne trop axé sur soi? Parce qu'il faut quand même penser à son interlocuteur et qu'est-ce que lui veut ressortir d'une bonne histoire aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Oui, je suis très d'accord parce qu'en fait, il y a des limites. Mais ça dépend vraiment de comment on se positionne et qu'est-ce que l'on veut vendre. Mmh. Si par exemple, toi, tu veux te vendre pour qu'on puisse t'embaucher, forcément, c'est toi le héros. Par contre, si tu veux, par exemple, vendre un produit et un service qui servirait beaucoup plus à ton client, tu peux te positionner de deux manières. Tu peux te positionner soit comme l'experte, c'est-à-dire celle qui va vraiment apporter la solution à tous tes problèmes. Ça fait super longtemps que ton client traîne, perd du temps, est vraiment déprimé parce qu'il n'arrive pas à débloquer sa situation. Ou, au contraire, c'est le client qui est le héros. C'est-à-dire que tu vas apporter ton client dans un processus où il a vraiment la chance de te retrouver en chemin. Tu vois ? Voilà. Tout à fait. Donc, c'est un peu...
T'es comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux.
Voilà, en fait... Voilà, simple et pratique, bah c'est ça. C'est deux façons de voir les choses. Donc, il y en a qui me diront, mais non, mais c'est toi, du coup, le héros. C'est pas que la personne centrale, c'est pas que la personne sur qui se centre l'histoire. Le héros, il faut le voir comme la personne qui apporte la solution ou la personne qui est en recherche de solution. Donc, quand on voit les deux axes, on peut se dire, ben, mon client, finalement, c'est celui qui a trouvé la solution seul, mais en tout cas, j'ai été là au bon moment. Au parfait moment. Et je veux être au parfait moment pour qu'il se dise, tiens, Eureka, j'ai trouvé la solution par moi-même. Qu'il ait un peu la petite couronne de je suis débrouillarde, etc. Tu lui donnes toute cette sensation, etc. Voilà. Tu te positionnes comme l'experte qui dit, bah, écoute, tu veux vraiment évoluer, tu veux vraiment changer ta situation. Écoute, je suis la bonne personne pour toi. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai une histoire derrière qui prouve. Voilà. Les histoires, ce n'est pas juste pour faire farfelu, pour faire un peu féerique, etc., pour faire conte d'enfant, etc. Non, les histoires, ce sont des preuves, ce sont des choses tangibles sur lesquelles les personnes s'appuient pour dire, je ne suis pas là pour raconter que du pipeau, parce que les gens disent, raconter des histoires, c'est un peu péjoratif. Je suis là pour apporter des preuves comme quoi je suis la personne et il faudrait le dire. Voilà.
Voilà. C'est juste une façon un peu plus facile de communiquer ou du moins d'aller chercher l'intérêt de la personne en passant par l'histoire.
Tout à fait.
Juste un texte descriptif ou informatif où la personne doit aller chercher toute cette information-là par elle-même. Ça mène à une question que je trouve vraiment intéressante, puis c'est le lien entre, par exemple, bon, le storytelling sur le web, c'est super à la mode parce que on peut... je sais pas, j'ai pas étudié ça exactement, mais j'ai l'impression que le fait qu'on peut naviguer à travers des pages, qu'il y a des images pour la pluie, qu'il y a beaucoup de multimédia, qu'après ça, on peut aller écouter justement un podcast ou aller regarder un feed Instagram pour supporter cette histoire-là, ça fait que le web est devenu un médium très prompt à générer des histoires. Est-ce que tu vois un lien entre, justement, la tradition orale puis ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le web Tandis qu'on a passé par toute cette période de l'histoire où c'était vraiment plus textuel, là, on revient peut-être à quelque chose d'un peu plus... qui se rapproche de l'oralité. Qu'est-ce que... Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça sous cette forme-là ou comment tu vois l'apport du web dans ton activité?
Oh ben, de plusieurs manières. OK, il y a bien une tradition orale. Après, on n'est plus dans le temps où on fait des arbres à palabres. Parce que tu sais, chez moi, par exemple, ça, c'est des traditions qui sont très anciennes, qui ne se font plus. Mais par contre, il y a toujours des conseils de famille. Je me rappelle encore, ma mère m'a appelée pour dire, tu sais, on a eu un conseil de famille, c'est-à-dire, il y a un très gros problème, je ne sais pas, le mariage d'un, ou je ne sais pas où il y a trop de problèmes, etc. Et du coup, c'est la famille qui se réunit. Moi, je dis, mais c'est quand même assez intrusif. Mais bon, c'est une manière pour certaines ethnies de trouver des solutions dans le feu. C'est-à-dire, là, on trouve une solution tout de suite, on ne va pas s'appeler au téléphone pendant très longtemps, on se réunit, on trouve la solution, et puis basta, on passe à autre chose. C'est des choses qui sont quand même qui existent, qui persistent, c'est des traditions. Par contre, aujourd'hui, le web est venu bouleverser pas mal de choses. Déjà, l'information fuse. L'information dans tous les sens, tout le monde a accès à l'information et il y en a tellement sur la toile qu'au bout d'un moment tu te fatigues, tu te perds, chacun prend un peu son angle, son axe. Ah bah oui, mais bon, moi je dis mais, bah oui, mais moi je dis contre, je dis pour. Enfin, et tout ça, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, beaucoup, et ça fait perdre en fait le client dans tout ça. Alors, comment associer une histoire avec le web? Le web, tout simplement, c'est un moyen de diffusion. C'est-à-dire, ça te permet d'atteindre même des paysages que tu n'aurais jamais atteints en temps normal si tu rassemblais les gens autour d'un arbre à palabres. Amine, est-ce que tu vois un peu l'image que j'essaie de...
Arbre à palabre, qu'est-ce que tu veux exactement dire?
C'est-à-dire un conseil, un cercle. Par exemple, tu réunirais tes clients, par exemple, physiquement dans un café. On va mettre ton arbre à palabre, c'est comme un café, par exemple, où tu réunis tes clients, tu fais un workshop pour répondre à toutes leurs problématiques. C'est des choses que tu ne peux pas faire dans tout le monde entier. Tu ne peux pas attirer des clients de tout le monde entier, de prendre l'avion, de se réunir, que tu puisses répondre à leurs problématiques. Par contre, Il suffit d'une simple connexion d'un webinaire où tu vois des personnes venues un peu du monde entier qui viennent pour écouter ton histoire et c'est parce que les gens sont connectés. Le web, il apporte extrêmement un champ de diffusion beaucoup plus large et beaucoup plus cadré, c'est-à-dire que tu sais très bien quand est-ce que tu interviens, tu sais très bien pourquoi d'ailleurs tu vas raconter cette histoire, tu sais très bien qu'est-ce que tu vas vendre, ça vient vraiment, tout à fait, ça vient ouvrir les horizons et tout est cadré. Ton client, il n'a pas beaucoup d'informations à suivre. Il sait très bien qu'il faudrait qu'il puisse se connecter. Il sait très bien qu'il faudrait aller sur tel blog pour avoir telle expertise parce que tout est cadré. Enfin, c'est un peu ça, pour moi en tout cas.
OK. Puis, est-ce que toi... Parce que, bon, je suis ton Instagram aussi, puis je trouve que Instagram, c'est un autre lieu intéressant pour raconter des histoires à travers autant les images que le texte. Comment est-ce que tu trouves que l'intégration de tous ces médias, de tous ces médiums-là, comme quand on pense à une histoire, on pense souvent au texte ou à la parole, mais il y a aussi l'image, la présence. Comment t'intègres ça, toi, dans ton travail ou dans tes histoires quand tu réfléchis à l'histoire globale qu'un client devrait raconter ou des choses comme ça?
Oui, tout à fait. En fait, on fait souvent la différence aujourd'hui entre le storytelling et le contenu. Parce qu'en fait, une stratégie de contenu, c'est exactement ça. Hein. C'est tout le type de contenu que tu peux mettre en place pour pouvoir attirer de la clientèle, attirer des prospects et pouvoir, les transformer. Voilà, c'est ça le terme. Les transformer en clients. Donc, pour ça, y compris les articles de blog, les vidéos, les photos, les images, les espèces de contenus, comme par exemple des courtes vidéos, des teasers, des choses comme ça, que les gens mettent en place. Et puis, très longtemps, quand on migrait sur ce marketing-là plus humain, on allait beaucoup plus sur différentes formes de contenu. On dirait le contenu est roi, parce qu'aujourd'hui, c'est plus mettre un produit, faire de la promotion, forcer les gens à acheter jusqu'à... Et puis, les gens achètent. Maintenant, les gens commençaient à écrire des articles de blog intéressants, en train d'exposer une problématique, répondre à des questions, et c'est comme ça qu'on attirait des prospects. prospects. Maintenant, où est-ce que les histoires rentrent dans ce processus-là? Eh bien, en fait, les gens vont encore confondre le storytelling et le copywriting. Le copywriting, c'est encore cette technique qui fait qu'en fait, on écrit tellement des excellents articles de blog qui poussent à la conversion. On essaie de contextualiser. On essaie aussi parfois de raconter des histoires puisque le copywriting utilise la narration pour pouvoir convertir. Mais là où le storytelling devient roi et maître de tout et englobe absolument tout, c'est lorsqu'il y a une cohérence. Tu peux bien écrire des articles de blog qui vont convertir pour faire passer tes prospects. D'ailleurs, c'est ce que nous, on fait. On fait ça sur nos captions Instagram. On fait ça sur nos captions, captions Instagram, articles de blog, ou peu importe tout ce qu'on écrit, c'est pour convertir. Mais par contre, regarde, tu vas pouvoir raconter une histoire sur ton article de blog. Et lorsqu'on va sur tes réseaux sociaux, on ne comprend pas ce que tu fais. Lorsqu'on va sur toutes tes autres plateformes, on ne comprend pas ce que tu fais. On ne comprend pas, c'est quoi ton message de marque déjà, c'est quoi? Et ensuite, c'est quoi ton histoire? Et après, comment tu englobes tout ce contenu dans l'ensemble, justement, de ton ADN? Et c'est ici, en fait, qu'intervient le storytelling. Le storytelling est un ensemble. Ce n'est pas juste se poser, écrire un excellent article de blog avec un bon français, raconter une histoire, j'ai commencé par, je suis née, quand non. C'est une stratégie qui est à peu près globale. Moi, c'est ce que je fais comme différence avec toutes les techniques de copywriting et les stratégies de contenu qui existent aujourd'hui. Donc, concrètement, quand un client veut travailler avec moi, et c'est simple, on va prendre un exemple terre à terre, c'est rédiger une page à propos, parce que la page à propos sur le web, sur un site internet, c'est the place où quand même l'expert voudrait raconter et présenter son entreprise. Et qu'est-ce que je fais? Avant de commencer à rédiger, je suis censée comprendre toute la personnalité de mon client, qu'est-ce qu'elle aime, quels sont ses centres d'intérêt. On va vraiment très loin dans la discussion jusqu'à comprendre mais vraiment sa personnalité. Et je fais un parallélisme avec tout ce qu'elle publie comme contenu pour voir qu'est-ce qui a vraiment du sens, etc. Donc, en plus de la page à propos, maintenant aujourd'hui, je propose une adaptation de cette page à propos par rapport à son contenu Instagram. Quelles sont les photos? Quels sont les captions qui vont justement raconter cette histoire-là, qui est la tienne, tu vois? Donc, il y a beaucoup plus de cohérence. Voyons le storytelling comme un univers dans lequel il y a de la stratégie de contenu, il y a du copywriting et il y a l'humanisation, tout simplement.
C'est comme l'outil par excellence de ta marque.
Tout à fait.
Comment tu positionnes ta marque dans l'esprit de ton lecteur ou de ton client ou de ton employeur, peu importe.
Tout à fait. C'est comme les Anglais te disent, quand tu... Même pas les Anglais, c'est surtout les Américains, quand ils te disent « So, what is your story? » C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ton message? Et tu peux écrire des beaux articles de blog, tu peux écrire des trucs parfaits. Et quand quelqu'un va venir et regarde, en fait, finalement, mais c'est quoi son message? Il faut absolument que dès qu'on atterrit, on voit ta personnalité, on voit tout ce que tu dis a assez de cohérence et on comprend tout de suite c'est quoi le message que tu souhaites diffuser à travers ton business. That's, pour moi, le storytelling. C'est ça.
Qu'est-ce que tu penses qui seraient des pièges dans lesquels on tomberait quand on veut raconter notre histoire sur le web, puis... Bon, soit on n'est pas versé en storytelling ou peut-être des fois on est trop... On se regarde trop de près pour être capable de raconter une bonne histoire. C'est quoi les choses que tu vois le plus fréquemment qui sont des problèmes au niveau de l'histoire de marque, justement?
Que les gens se focalisent beaucoup plus sur eux que sur leurs clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour le client. À moins qu'on veut créer une entreprise et acheter nos propres produits. Sinon, ça n'aurait aucun sens. C'est que notre histoire sert justement à... permet aux clients de pouvoir s'identifier à nous, s'identifier à nos produits pour qu'ils disent que oui, je pense que en fait c'est la personne qu'il me faut parce qu'on a le même parcours, on a la même histoire et je pense qu'elle me comprendrait mieux. Donc ce client-là à qui tu t'adresses, il faut plus le mettre en avant que toi-même. Même si sur ton Instagram il y a tes photos, mais tes captions doivent être absolument différentes de parler de toi. Il faut faire la différence. D'autres pièges, c'est souvent parce qu'on aime, par exemple, un réseau social. Comme... Je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est the place où tu peux directement arriver sur un profil et tu comprends, l'histoire de façon globale, tu comprends l'univers. Il y a deux fois, tu arrives sur Instagram, tu vois un peu de tout, c'est un peu un cafouillis de tout ce que tu veux. C'est juste, je mets un peu des photos, des choses que j'aime. J'aime les fleurs, j'aime le café, j'aime les chaussures, j'aime tout ça. Mais on comprend pas trop, en fait, on voit pas trop la cohérence avec ton business, avec l'univers que tu as créé, avec le personnage que tu as créé autour de ton entreprise. On ne comprend pas trop. C'est des petits pièges comme ça. Et aussi, un autre piège très important que je vois assez souvent en ce qui concerne une présentation de son entreprise, de ses produits, de ses services, c'est qu'on ne dit pas quelles sont les bonnes raisons de travailler avec nous. On dit je vends ça, j'offre ça, etc. Mais il n'y a pas ça. Pourquoi quelqu'un justement achèterait, tu vois? C'est pourquoi moi, à la fin de mes pages à propos, je dis ok, alright, on a vraiment fait le tour de tout ça, mais cite-moi trois bonnes raisons pour lesquelles je travaillerai avec toi. Mais mes clients sont souvent j'ai pas réfléchi, je sais pas, etc. C'est normal, hein, c'est normal, c'est une question qui peut surprendre, mais dès lors que tu sais vraiment pourquoi tu es convaincu de, déjà toi-même, pourquoi tu es la bonne personne de ce service, tu m'en cites trois choses. Je pense que si les personnes arrivent à se retrouver dans ces trois choses, tu as déjà gagné la confiance de beaucoup de personnes.
Mais c'est difficile, je pense, pour en revenir à ton premier point, où on pense aux réseaux sociaux une fenêtre, comme quelque chose de personnel, dans le fond, de faire le lien vers un côté plus business. Est-ce que c'est une question de choisir ce qu'on montre? Est-ce que c'est une question d'être plus ou moins authentique? T'sais, comment tu rentres le côté authenticité? Parce que j'ai l'impression que quand même, les gens veulent voir une personne... Mais ils ne veulent pas nécessairement, justement, comme tu dis, avoir accès à tous les petits détails de leur vie. Mais comment faire la balance entre ce que tu partages et ce que tu ne partages pas par rapport à ton entreprise?
Oui. En fait, déjà, s'il faut répondre à cette question, il faut commencer par les bases des bases. Il faut faire la différence, même pas la différence, il faut essayer de se restituer par rapport à ton type d'activité. Qu'est-ce que tu vends à proprement parler? Est-ce que tu es dans le e-commerce, par exemple? Parce que si tu es dans le e-commerce, en toute honnêteté, tu mettras plus en avant les produits que tu vends, tu les mettras beaucoup plus en situation. Encore une fois, tu les mets en situation. C'est-à-dire, tu ne vas pas prendre un t-shirt, tu l'étales sur ton mur et tu mets crac et tu prends la photo et tu te dis à vendre 26 dollars canadiens. Ça, je veux dire... Je peux comprendre que c'est des choses que l'on fait, qu'on peut faire aussi dans les forums, dans les etc. Mais tu vois, aujourd'hui, le fait de raconter une histoire aussi, c'est mettre en situation ces produits-là. C'est-à-dire faire en sorte que le client essaye de se retrouver en portant ton t-shirt. Comment ? En étant en tenue de ville, en étant dans une ville, en étant dans une situation... tu vois ce que je veux dire ? En étant en train de marcher dans la rue, en étant... cosy chez soi, en train de prendre un petit café. Tiens, avec ce t-shirt, c'est sympa, c'est pas mal. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie un peu de changer les choses. Bon, là, on met plus en avant les produits. Tu peux apparaître de temps en temps, vite fait, pour qu'on voit un peu qui se cache derrière un peu toute cette entreprise, mais ce sera focus sur le produit. Ton produit sera la solution qui va rendre les gens beaux, belles, etc. Tout ce que tu veux. Si tu es un coach... un consultant, tu donnes des conseils, tu as un cabinet de conseils, etc. Et bien, en fait, un expert est associé à un visage. C'est dur de le dire, mais c'est la réalité. Les gens vont prendre tes services parce que c'est toi. Parce que c'est toi qui donnes, parce que c'est toi qui as l'expertise, parce que c'est toi qui as le parcours pour, tu as les certifications. Du coup, imagine, tu ne te mets pas en avant, tu ne te mets pas du tout en avant. Bon, Je ne sais pas. C'est compliqué. Pour moi, c'est très compliqué.
Ouais.
Voilà. Il y en a qui arrivent à...
Personne à personne.
Ben, c'est compliqué. OK, ils vont rentrer en contact avec toi, ils vont discuter, etc. Mais à un moment donné, ils vont vous dire, bon, j'aimerais quand même qu'on se rencontre. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est que, OK, je sens ce que tu me dis, ça me dit quelque chose, mais j'aimerais te voir. Parce que voir une personne, la rencontrer, c'est aussi tester le feeling. Est-ce que ça va passer? Et du coup, les gens font court. Mettre leur photo pour voir un peu est-ce que sa personnalité me touche. Si ça me touche, je n'ai aucune hésitation, même si je ne l'ai jamais rencontrée, de partir avec elle. Du coup, si tu te dis que tu ne veux pas te montrer, je peux comprendre. Sauf que fais la distinction entre les posts où tu te montres et les posts où tu mets juste des citations et tu fais tout.
Tu te caches dans le fond. Tu te caches derrière des citations, des images ou peu importe.
C'est ça. Il y a toujours plus d'engagement lorsqu'il y a une photo où l'expert est dans sa situation, en train de travailler, en train de... Voilà, on n'a pas dit que tu vas prendre des photos en mode stylé, etc. Encore, est-ce que c'est un article de blog un peu mode ou quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, il faut que ce soit cohérent avec
bien sûr, toujours. Mais tu verras qu'il y a une énorme différence. L'objectif, c'est vraiment, pour moi, c'est surtout de savoir à qui tu t'adresses et comment il aime bien avoir ce message.
Donc, si, pour en revenir un petit peu à tous ces points-là mis ensemble, une stratégie qu'on pourrait adopter, disons, sur Instagram ou dans des articles, des choses de même, c'est de se demander c'est quoi les parties de mon histoire, qui sont les protagonistes, mais surtout quelle transformation je veux que mon client ait ou que la personne qui va travailler avec moi, elle ait, puis mettre l'accent sur ces moments de transformation-là à travers notre contenu, à travers nos posts, puis à travers notre image, même si j'ai l'impression qu'on peut stager aussi cette transformation-là. Par exemple, si moi, je suis coach de succès, ben je vais prendre une photo de moi qui est sur un vol en première classe qui va aller donner une conférence à New York, disons, pour montrer à mes clients, ben voilà ce à quoi tu peux aspirer aussi en faisant affaire avec moi. Je donne un exemple.
Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Hein. L'essentiel, ça peut être ça. C'est pas forcément mettre une photo de soi, mais moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. C'est quand on choisit nos clients, un peu comme tout l'étape un peu de base, quand on choisit notre client, on choisit notre interlocuteur. Mm-hmm. On doit savoir à qui on s'adresse et ce qu'on a en commun. Est-ce que toi et tes clients, vous avez en commun une chose? Je ne sais pas. Il y en a qui ont en commun, par exemple, c'est des personnes qui aiment des belles choses, c'est des personnes qui aime du glamour. Voilà, par exemple, tu peux être coach, consultant, etc., mais tu es une femme qui est plutôt apprêtée. Bah, forcément, des personnes qui vont venir te suivre sur les réseaux sociaux, ils ont cette carrure-là, d'être une powerful girl et d'avoir quand même, pour elles, l'image d'une powerful girl, c'est une personne qui a une tête bien faite, mais aussi très belle de l'extérieur. Tu verras que naturellement, les gens qui vont te suivre auront aussi cette tendance-là. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah tiens, c'est quand même une personne qui fait attention à son apparence, etc. Et aussi, c'est une personne intelligente, du coup. Parce qu'en fait, au fond, les gens s'identifient aux personnes qui leur ressemblent. Et moi, je n'arrête pas de répéter ça. Ou qui savent ressentir les mêmes émotions qu'elles. Parce que tu ne peux pas raconter, par exemple, si tu es lifestyle blogger, tu ne peux pas raconter ta vie de voyageuse à des agriculteurs. Ça n'a aucun sens, tu vois. À moins de dire, emporte tes plantations dans le monde et découvre d'autres cultures. Ça n'a aucun sens. Ils vont même pas... ils vont pas comprendre ce que tu veux dire, ok? Alors, si tu rentres à ton exemple, ok, tu peux prendre un avion, etc., aller donner une conférence... Ce n'est pas grave, c'est-à-dire que les gens ne vont pas se dire que voilà, tu fais genre trop de paillettes, etc. Pas du tout. Tu es en train de montrer les backstage de tout ce que tu fais, c'est-à-dire aujourd'hui, tu en es arrivé là à prendre un avion, à aller dans un autre pays pour pouvoir donner une conférence. C'est qu'en fait, ça veut dire waouh, moi aussi, je peux avoir cette vie de partager mon expérience partout à travers le monde. Ce ne sont que des clichés qu'on se fait nous-mêmes en disant « Ah, les gens, ils vont peut-être croire qu'on n'est pas assez bien, etc. » Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, je pense qu'il faut il faut aspirer à quelque chose qu'on veut aller attirer chez les autres.
Oui, le surtout. Fond. Surtout.
Puis je pense qu'aussi, un bon storytelling va aller chercher, puis on n'en a pas vraiment parlé, même si on a tourné autour du pot, mais ça va susciter des images, ou qu'elles soient mentales ou en vrai, si on prend Instagram par exemple, chez la personne qui va entendre cette histoire-là et qui va justement se faire des visualisations de que ce soit c'est quoi la destination, quels sont les obstacles à travers lesquels on passe, et va ressentir des sentiments par rapport à ces... des émotions par rapport à toutes ces étapes-là. Donc, émotion, image et les mots pour lier tout ça ensemble à travers une histoire cohérente qui va se voir à travers les plateformes de l'entrepreneur ou de la femme de carrière ou peu importe.
Tout à fait.
Super. Est-ce que, là, je vois que le temps file. Est-ce que tu as des outils fétiches ou des livres que tu as lus sur le storytelling que tu voudrais conseiller peut-être aux gens qui écoutent, qui sont intéressés par ce sujet-là?
Oui, ben en fait, il y a le livre célèbre de Christian Salmon qui est vraiment le classique dans le storytelling. C'est La machine à raconter les histoires et à formater les esprits. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il met en avant en fait l'importance du storytelling dans le monde actuel. Comment ça a évolué par rapport aux marques, etc. Donc, on est passé du logo à la marque et du logo à la marque et de la marque à l'histoire. Donc, il explique absolument tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il met un peu les contrastes aussi sur les limites du storytelling, c'est-à-dire dans le champ politique, où les gens utilisent des histoires pour pouvoir manipuler. Donc, c'est très, très technique, mais c'est très intense, ce livre. C'est très intense pour ceux qui en raffolent. Bon, après, c'est pas tout le monde qui va lire un livre pareil. Mais il y a un très beau livre que j'ai lu, je pense, 5 fois. Et je pense que je vais encore le relire. C'est le livre de Simon Sinek. Et ça, je pense que franchement, il ne faut pas le rater. C'est sur le leadership, c'est Why.
Start with Why.
C'est ça. C'est celui-là. Et celui-là, c'est la base des bases pour apprendre à commencer à raconter des histoires, c'est-à-dire trouver son noyau, trouver le sens du projet et par la suite, les histoires en découlent. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour faire mes formations et mes cours parce que je le retrouvais totalement dans ce qui était dit. Comme quoi, de l'histoire, si dans le champ professionnel, c'est vraiment pour susciter du leadership. I mean, quand tu vois vraiment les choses, tu te dis, mais s'il faut inspirer, vraiment, parce que c'est ça en fait, inspirer, engager et vendre, et ben, il faut avoir un certain leadership pour emporter des foules. Et ce livre-là, c'est un bijou à consommer.
Je pense, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais entendu un excellent épisode de podcast que je vais mettre en lien dans les notes de cet épisode. Mais c'est effectivement sur le leadership, puis je pense qu'on n'en parle pas assez de comment... se positionner comme un leader nous-mêmes, que ce soit dans notre industrie ou en tant qu'inspiration pour d'autres personnes, on n'ose pas le faire, on dirait. C'est comme un terme un peu tabou de se voir comme un leader. Je sais pas, j'avais fait un commentaire sur LinkedIn une fois, puis quelqu'un m'a dit « Ben, pas tout le monde qui aspire à être un leader en ce monde. » Puis je suis comme « Ben, si tu vends... » Je sais pas, genre, c'est une question que je me pose, puis qu'on pourrait peut-être... observer sur le podcast un jour.
Tout à fait. Bah, de toute façon, quand il y a le champ professionnel, que l'on soit entrepreneur ou que l'on soit salarié, parce que moi, du coup, comme tu disais au début, moi, j'ai une double activité. Ouais. Je suis salariée dans la microfinance, la création d'activités. Donc, je suis conseillère et à côté, je suis storyteller. Donc, si tu veux, les deux métiers demandent aussi un certain leadership pour amener les gens à te faire confiance et à prendre justement tes conseils ou tes services. Mais je pense que tout est lié. Hein. Quand on est dans la vie pro, il faut un certain leadership.
Absolument.
Oui.
Bon, Benvinda, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut lire tes choses, travailler avec toi? Donne-nous tes liens.
Alors, vous pouvez me trouver sur mon compte Instagram qui est le plus actif, c'est Limbola, c'est L-I-M-B-O-L-A avec un petit trait du 8. Donc voilà, sur ce compte-là, il y a un formulaire dans ma bio si les gens veulent rentrer en contact, en contact avec moi, ils peuvent aussi m'écrire tout simplement en DM, m'envoyer un mail ou m'appeler. Alors, j'ai un numéro professionnel dédié. Oui, un numéro professionnel dédié dans des heures entre 9h et 18h. Donc, on peut m'envoyer un SMS, on peut m'appeler sur WhatsApp, hein, parce que du coup, super. WhatsApp, c'est vraiment pratique pour l'international, mm-hmm. Parce que j'ai un numéro français. Et puis voilà, donc j'ai un peu multiplié les canaux de contact. Donc voilà. Alors, pour mon site est en construction, qui va être publié en fin octobre.
Ok.
Donc là, j'ai refait toute mon identité visuelle. Tout va changer. Donc, le fameux feed dont tu parles, tout va absolument changer. J'ai l'impression que je vais recommencer même cet Insta. Bon, voilà, parce qu'il y a une autre histoire, d'autres parcours.
Etc. Ah, ben on va suivre la création de cette nouvelle histoire. Alors, ça risque d'être riche en conseils non dits.
Oui, bah, je vais vraiment plutôt m'axer du coup sur le conseil. J'ai remarqué que mes posts où je donnais beaucoup plus d'articles, de conseils sur le storytelling de façon pratique marchaient énormément bien. Il y avait beaucoup d'enregistrements parce que j'ai compris que c'est ça que les gens cherchaient. Mm-hmm. Donc voilà, ce sera beaucoup de conseils et de liens pour les articles. Voilà.
Bon, ben, je vais mettre le lien aussi, les liens pour te rejoindre en bas de cet épisode. Et ben, je te remercie beaucoup pour ton intervention. C'était une discussion très intéressante.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Et je te souhaite bien du succès dans les mois qui s'en viennent et bon lancement de ta nouvelle marque.
Merci et à très vite.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!